Ben merci à Joël Labbé d'avoir m'avoir invité pour parler un peu du plancton, parce que bon, on parle des huîtres, hein, mais il faut savoir que le plancton, c'est le compagnon de route de l'huître depuis sa naissance jusqu'au moment où le consommateur va la déguster. On a parlé des navicules bleus tout à l'heure, donc jusqu'à la fin de sa vie, le plancton est essentiel à la vie de l'huître. Et donc c'est important d'en parler un petit peu, même si c'est l'écologie de l'invisible, comme je le dis dans les enjeux planctoniques. C'est pour ça que j'ai fait des images, parce que parler du plancton sans le voir, puisqu'il est invisible, c'est difficile. Donc voilà, c'est juste pour illustrer, mettre quelques images. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à ce que je dis, regarde les images, il y a un petit peu de texte qui arrive. Et, tout est expliqué sur la biodiversité. Voilà. Non, parce que ici, j'ai de nombreux stagiaires et élèves que j'ai eus, et donc ils connaissent hein, tout ce que je vais montrer déjà. Mais je parle aux autres aussi, quoi, ceux qui connaissent un peu moins le plancton. Donc je vais parler surtout du phytoplancton, parce que je pourrais parler du zooplancton, j'en parlerai un petit peu à la fin, 10 secondes du zooplancton. Mais le phytoplancton, c'est vraiment le compagnon de route des huîtres. Il faut savoir que la première fonction du phytoplancton, du plancton végétal, c'est de produire plus de 50% d'oxygène. Il faut savoir que nos huîtres, elles respirent, elles ont besoin de respirer. Et parfois, il y a des petits déficits en oxygène dans l'eau et qui peuvent poser des problèmes. Alors tiens, pourquoi il y a moins d'oxygène dans l'eau? Ah, c'est peut-être parce qu'il y a moins de phytoplancton. Tiens, pourquoi il y a moins de phytoplancton? Parce que, etc., etc. Donc c'est bien comprendre le fonctionnement des écosystèmes phytoplanctoniques. C'est parfois remonter en amont et pour comprendre un petit peu est-ce que les activités humaines n'ont pas un impact sur ces micro-organismes. Alors ce qui est important dans le phytoplancton, c'est, on a vu l'oxygène, c'est aussi tout ce qu'elle apporte, la qualité nutritive, elle produit des vitamines, des protéines bien sûr, même des oméga-3. Hein, donc le phytoplancton, dans sa grande diversité, est riche. Et il y a des phytoplanctons qui vont produire plus de vitamines, d'autres plus de protéines, plus d'oméga-3 ou moins d'oméga-3. Bref, tous ces éléments qui sont nécessaires pour les végétaux pour donner une bonne santé au milieu. Et quand le milieu est sain, quand la diversité du phytoplancton est là, le milieu est sain, et ben les animaux qui les filtrent et qui les mangent, et ben ils sont sains aussi, quoi. Voilà, donc ça c'est très important de savoir que tout ça peut être déséquilibré, peut être modifié et peut apporter des... Alors, il y a même aussi des phytoplanctons, c'est pour arriver sur le sujet d'aujourd'hui. J'ai oublié de dire aussi que dans la mer, il y avait du phytoplancton, du zooplancton, mais il y a aussi des virus et des bactéries, elles ont le droit de vivre, elles sont là. Hein. Et ces virus et bactéries ne deviennent actifs que quand les conditions sont favorables à leur développement. Et ben, il faut savoir que la nature a même fabriqué des micro-organismes, des phytoplanctons, qui ont la spécialité de produire des bactéricides ou des antibiotiques naturels. Donc on les connaît. Hein. Le professeur Aubert, en 1970, a fait toute l'étude là-dessus. Et il a démontré, quand on était en présence de certaines diatomées, c'est surtout chez les diatomées qu'on va trouver ces bactéricides et ces antibiotiques. Donc c'est vraiment bien. La nature a bien fait les choses. Elle sait lutter. Donc ce qui est important, c'est de maintenir la qualité du phytoplancton pour la nutrition de nos huîtres, parce qu'elles ont besoin de ce phytoplancton pour grossir, mais elles ont besoin aussi d'un plancton de qualité pour parfois guérir, tout simplement, et pour éviter ces pathogènes de se développer, de devenir actifs. On parle même maintenant des protistes. Alors, c'est parce que je dis que les huîtres mangent du phytoplancton, il paraîtrait qu'aujourd'hui, il y a même aussi des protistes et des ciliés, des protozoaires, qui sont de très petite taille, qui arrivent à rentrer par la bouche de l'huître et rentrer dans l'estomac. Donc, vous voyez. Donc ça, c'est très important d'étudier, de regarder en permanence la qualité du plancton. Alors, bien sûr, IFREMER, avec le réseau REFI, nous garantit, nous sécurise, nous dit, bon, attention, là, il y en a le développement d'un phytoplancton toxique, il faut mieux pas manger les huîtres, etc., ou les coquillages, ou les palourdes, ou les moules. Mais l'IFREMER n'a pas le temps, et j'ai aimé la ligne qui disait tout à l'heure, il y a de moins en moins de fonctionnaires, il n'y a plus de gens qui observent le plancton pour observer le plancton, et ça, c'est dramatique, parce que des identificateurs et des taxonomistes du plancton, c'est très important. Et on en a de moins en moins, parce qu'on demande aux chercheurs d'être rentables, et ne pas rêver à regarder une goutte d'eau de temps en temps. C'est pour ça qu'on a lancé l'idée, il y a une quinzaine d'années maintenant, en 2000, de faire des observatoires de plancton citoyens. Et on a commencé d'abord par les professionnels de l'ostréiculture, parce que les plus concernés par la qualité du phytoplancton, c'est quand même les ostréiculteurs. Mais on a associé aussi les pêcheurs, parce que les pêcheurs aussi vivent grâce aux zooplanctons, les poissons, etc., s'en nourrissent. Donc ça, c'est important de faire que le plancton, ce n'est pas de temps en temps qu'il faut l'observer, c'est quasiment tous les jours, toutes les semaines, tous les 15 jours. C'est ce qu'on fait actuellement depuis 15 ans avec l'Observatoire du plancton. Alors on le fait pour des raisons parfois pédagogiques, pour l'éducation, pour apprendre aux jeunes, aux générations futures et aux élèves qui sont dans nos lycées qu'il faut apprendre vraiment son écosystème, comprendre son milieu de production, un peu comme si l'agriculteur aujourd'hui cultivait ses champs ou élevait son bétail sans connaître l'agronomie du sol, quoi. C'est inconcevable. Un agriculteur est obligé de connaître l'agronomie des sols. Ou alors, s'il ne le connaît pas, bien sûr, il s'en fout complètement de l'agronomie des sols et il va mettre des intrants, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour nous, notre métier de professionnel de la conchyliculture ou de la pêche, c'est vraiment de comprendre cet écosystème et comment il fonctionne. Mais surtout, comment il dysfonctionne, parce que s'il y a des phytoplanctons qui disparaissent, comme justement des diatomées qui produisent des bactéricides ou des antibiotiques naturels, tiens, c'est intéressant, tiens, on ne l'avait pas vu celui-là. Donc, ces diatomées disparaissent, on les voit diminuer, et elles sont remplacées, bien sûr, par d'autres, parce que la nature a horreur du vide, vous savez, quand des phytoplanctons disparaissent, il y en a d'autres qui s'installent. Alors, voilà, c'est l'idée, c'est un petit peu ça, c'est d'arriver à suivre la qualité des eaux en permanence. C'est pas seulement l'affaire des spécialistes, des chercheurs. Pour moi, l'affaire du phytoplancton et du plancton pour les huîtres, c'est vraiment une affaire citoyenne, c'est notre affaire à tous, et en particulier des ostréiculteurs. Alors, on a déjà trouver un peu les raisons hein, de dysfonctionnement de ces micro-planctons, de ces phytoplanctons. Hein. Donc on voit bien que, par exemple, des lâchers de barrages, je pense au barrage d'Arzal, dans le Morbras, que je connais un petit peu quand même, ben, on sait que ça entraîne complètement une perturbation de l'écosystème dans le Morbras, qui va jusqu'au large, jusqu'à Belle-Île, même jusqu'au Glénan, et qui fait que le phytoplancton va se modifier, tout simplement, des espèces vont disparaître, d'autres vont apparaître, et c'est ce qu'on appelle les blooms phytoplanctoniques, qui vont un peu perturber l'écosystème et faire que les poissons, les crustacés, et bien sûr les coquillages, vont subir, on va les fragiliser. Voilà, donc ça c'est très important, mais il y a aussi les apports, les barrages apportent de la matière organique en grande quantité, donc quand il y a de la matière organique, eh ben, on a plutôt des protozoaires qui vont se développer, donc dans les protozoaires, il y a justement des agents pathogènes là-dedans, on en trouve, donc ils ont des demandes qui vont se développer aussi, et donc si à côté de ça, il y a du phytoplancton qui est là pour les lutter, pour les empêcher de se développer, ces bactéries pathogènes, eh ben, c'est bon, mais s'ils ne sont pas là, bien sûr, les maladies s'installent. Hein, voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que les agriculteurs utilisent des engrais de plus en plus. Hein, et donc, par les apports de nitrate et de phosphate, eh ben, on va accélérer le dysfonctionnement et favoriser plutôt le développement d'algues macrophytes. Hein, bon, l'histoire des algues vertes, vous connaissez. Bon, ben, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir des algues vertes et du phytoplancton. Hein, c'est l'un ou l'autre. Hein, voilà. Donc, quand les algues vertes se développent, eh ben, c'est au détriment du phytoplancton et de la qualité. En plus, les algues vertes se développent, mais pourrissent. Et quand ils pourrissent, ils produisent de l'hydrogène sulfuré. Hein, ils changent le pH de l'eau. Hein, donc, la qualité de l'eau se dégrade de façon... s'acidifie tout doucement, juste en bordure de côte, sur l'estran. Nature, au large, ça n'a pas le même impact. Mais l'ostréiculture, c'est quand même au bord de la côte, c'est dans les estuaires. C'est là. Donc à chaque fois qu'il y a des pratiques, qu'elles soient agricoles ou urbaines, hein, et là par exemple, je parlerai d'un élément important à mon avis pour le phytoplancton, et ça c'est quelque chose qui est commun à tout le monde de Cherbourg à l'Étanto, parce qu'on a essayé de comprendre pourquoi il y a les mortalités des huîtres ont lieu entre Cherbourg et l'Étanto quasiment au même moment, pendant 2 mois là en 2008, des mortalités violentes. Et donc ça, c'était intéressant de voir ce qu'il y a de commun. Alors bon, on a dit, il y a les huîtres, il y a les huîtres des closeries, il y a les huîtres du milieu naturel, il y a les triploïdes, il y a les diploïdes. Donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça a été bien dit là, le décor est planté. Mais il faut savoir qu'il y a un élément qui augmente tout doucement, insidieusement, qu'on ne voit pas, c'est les traces de pesticides. Hein, et les pesticides, pour moi, hein, c'est l'ennemi vraiment numéro un du phytoplancton actuellement. Et il a un impact terrible, mais ça... avec les copains qui sont ici, on analyse le plancton depuis quand même pas mal d'années. Hein, et donc, on le sait, on le devine, on a l'intuition. On n'avait pas la réponse scientifique. Alors, à chaque fois, on nous balançait, ben oui, mais tu as des preuves scientifiques. Je dis, j'espère jamais en avoir, parce que le jour où on en aura, on sera bien dans la merde, quoi. Donc, l'idée, c'est tout faire pour que la qualité des eaux soit là. Mais maintenant, on a vraiment les preuves scientifiques, parce qu'il y a un document qui vient de sortir, d'Ifremer, hein, donc deux chercheuses, Françoise Quignou et Geneviève Arzul, qui démontrent par leur livre l'impact des pesticides sur le phytoplancton. Et en particulier sur les diatomées, justement, qui est vraiment, pour nous, les diatomées représentent la plus grande biodiversité du phytoplancton et de celles qui vont jouer un rôle très important dans l'aspect nutritif, parce qu'on a toutes les tailles, on a toutes les formes, toutes les couleurs et tous les éléments nutritifs de chaque diatomée. Parce qu'une huître à la naissance fait 50 microns, elle a une bouche de quelques microns. Bon, quand elle est adulte, elle a une bouche un peu plus grosse, elle peut avaler un peu de tout. Mais il faut savoir qu'il faut à manger, il faut du plancton de premier âge, de deuxième âge, de troisième âge, et puis ainsi de suite. Hein, donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Hein, voilà. Et pour moi, les pesticides sont vraiment... et c'est des traces infinitésimales, hein, ce n'est pas des grosses quantités. Il faut vraiment faire des études en laboratoire pour arriver à détecter la teneur en pesticides à ces molécules qui se dispersent dans les estuaires. Et comme l'ostréiculture, pour moi, ça ne se fait pas dans les 200 000, hein, ça se fait en bordure de côte, l'impact est important. Donc c'est pour ça qu'il faut, tous ensemble, mettre tout sur la table. Les problèmes qu'on a vus depuis tout à l'heure, écloserie, milieu naturel. Moi, je pense que tant qu'il y aura de la reproduction naturelle, du captage naturel, ça, c'est un bon indicateur de bonne santé du milieu et des huîtres. Aujourd'hui, on nous parle, ça tombe bien, on nous parle du réchauffement climatique. Ce degré et demi qui augmente fait que les huîtres, je suis désolé pour Marais Noléron ou Arcachon, mais il faut savoir que les huîtres commencent à se reproduire en Bretagne et peut-être un jour en Normandie. Donc on peut imaginer des Bretons ou des Normands qui un jour mettent des collecteurs dans le milieu, collectent du naissin et voilà, bon. Je provoque, hein. Et on pourrait imaginer d'avoir des gisements d'huîtres naturelles comme les ostréiculteurs avaient il y a très longtemps. Ils appelaient ça des crassas. Ils géraient des crassas. On touchait pas aux crassas. Eh ben, pourquoi pas déjà commencer à imaginer qu'un jour on aura des crassas en Bretagne et en Normandie et qu'on aura un captage d'huîtres. Voilà.
Merci Pierre Mollot.